Bonjour à tous, je me présente, donc je m'appelle Pierre Brugnon, je suis membre de la CHAM, je ne dois pas être à jour de cotisation malheureusement. Je suis professeur d'histoire, géographie, éducation civique au collège et je mène depuis plusieurs années un travail de recherche de thèse pour obtenir un doctorat en histoire médiévale à l'université d'Avignon. Je viens d'Aiguebelle à l'origine et l'université d'Avignon, c'est une université d'adoption, c'est là où est mon maître de thèse. J'y vais une fois par an, principalement quand il commence à faire froid, et à Avignon, voilà, c'est toujours 20 degrés assurés. Alors, je vous présente donc le plan de la communication. Les bâtards, c'est un objet... Bon, c'est d'ailleurs d'abord dans l'esprit des gens un adjectif qui est péjoratif, hein, quasiment une insulte, voire une insulte tout court. Si on va au Moyen-Âge, on rentre dans une autre dimension. Donc j'ai décidé de vous parler des bâtards d'une famille que je connais de mieux en mieux, la famille de La Chambre, vicomte de Maurienne. Je travaille sur eux depuis plusieurs années en essayant de retrouver leurs archives. Certaines sont inédites, certaines attendent d'être retrouvées encore, certainement au Piémont. Et là, je vais vous parler que de leurs bâtards. Alors, d'abord, un petit peu de contexte en expliquant que les bâtards au Moyen-Âge sont des hommes comme les autres, qu'ils n'existent pas d'adjectifs comme demi-frère, demi-sœur, ça n'existe pas au Moyen-Âge, ou belle-mère, belle-sœur, et ainsi de suite. Et on va essayer de replacer le bâtard, le personnage, qu'il soit un homme ou une femme, au centre du Moyen-Âge, parce que celui qui va regarder les documents du Moyen-Âge, il va en trouver partout, il va en trouver tout le temps, que ce soit un bastardus, c'est-à-dire un bâtard, vous savez qu'en Savoie, les actes sont en latin jusqu'au début du XVIe siècle en majorité, ou fils naturel ou fille naturelle, ce sont les deux mots qui veulent dire bâtard dans notre français courant. Alors on va essayer de remettre ça en contexte avec un personnage comme un autre. En deuxième partie, je vous présenterai différents personnages qui portent tous le nom de Jean. Il y en a quatre au minimum, qu'il ne faut pas confondre. Jean le bâtard, je vous parlerai donc des fils et frères illégitimes des vicomtes de Maurienne. Et je finirai avec un procès du XVe siècle qui se trouve aux archives départementales de Chambéry. Et ce procès, ce sont des seigneurs qui montent une procédure judiciaire contre des bâtards pour leur faire... pour leur interdire de porter le nom de La Chambre, parce qu'ils descendent de bâtards. Alors que c'est quelque chose qui n'aurait pas posé problème vers 1400-1420, et en 1450-60, là, on a une famille qui, devant la justice du duc de Savoie, leur interdit de porter le nom, les armes, c'est-à-dire les blasons, de La Chambre. C'est assez inédit et plutôt intéressant. Alors, pour vous faire patienter tout à l'heure, j'ai commencé par une petite incise là-dessus. On est dans le mariage de Figaro, et c'est un refrain à la fin de la scène, à la fin, pardon, de la pièce de théâtre, qui commence par « Chacun sait la tendre mère dont il a reçu le jour, tout le reste est un mystère, c'est le secret de l'amour. » Voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire quand je suis tombé là-dessus. Je viens de le faire avec mes élèves de 4e, le mariage de Figaro comme critique des privilèges des nobles, et ainsi de suite. Donc voilà, ça m'a parlé. Et on est exactement là-dedans. Pour ceux qui lisent les Rois maudits, c'est grosso modo une histoire d'enfant échangé, une histoire d'enfant adultérin. Et j'ai eu l'idée de m'intéresser aux bâtards après la lecture de ce passage. Je ne sais pas si on voit... Oui. Vous avez le roi de France Louis X le Hutin qui apprend qu'il est cocu, on va le dire comme ça, et que la reine, pendant qu'il était encore un prince, couchait avec l'un des frères dit d'Aunay. Et vous avez un passage où Louis est livré à lui-même et pense « L'énoncé des dates posait à Louis de Navarre une question terrible. Pendant les 6 premières années de notre mariage, nous n'avons pas eu d'enfant. Il ne nous en est venu qu'après que ce Daunay est entré dans l'île de Marguerite. Alors la petite Jeanne, il n'entendit plus rien, parce qu'il ne faisait que se répéter dans un grand bourdonnement de sang qui lui brisse aux oreilles. Ma fille n'est pas de moi, ma fille n'est pas de moi. » Et dans un autre extrait, son oncle lui dit « Parlez, Louis ». Et le roi dit « On va dire bientôt que ma fille est une bâtarde ». Voilà ce qu'on va dire, une bâtarde. Là, vous avez finalement une vision un peu anachronique. Bien sûr, on touche au roi de France, donc le sang est primordial. Mais, bon, le roi possède des dizaines de bâtards. La grande question, c'est toujours ce qui est lié à l'héritage. Plus il y a de l'argent en jeu, plus il y a des possessions en jeu, plus il y a des seigneuries en jeu, plus le sang est important. Plus on est pauvre, moins on possède, et plus votre mariage, finalement, est libre, hein, puisqu'il n'y a pas d'enjeu financier. Là, le roi, vous imaginez bien que la fille du roi, elle héritera de terres, elle héritera de sommes d'argent conséquentes, et donc là, il y a un vrai enjeu. Hein. Et donc, finalement, dans les années 1980-90, l'objet bâtard, les bâtards, est devenu un objet d'étude à la mode. C'est-à-dire qu'autrefois, il ne l'était pas du tout. Dans les années 80, bâtard, bon, pour les historiens, c'est pas quelque chose de très intéressant, finalement. Ils l'en voient dans les actes. Bon, ça n'intéresse pas plus que ça. Hein. Le mot bâtard est encore extrêmement péjoratif. Hein, dans les années 80-90, pour vous donner une anecdote très personnelle, au moment de ma naissance, en 1987, la sœur de ma grand-mère, parce que mes parents n'étaient pas mariés, la sœur de ma grand-mère a dit à ma mère, de mon temps, les bâtards n'étaient pas dans le journal. Vous voyez ? Donc on en est là. Alors, pourtant, ce qui est le plus intéressant, c'est que le XVe siècle est un siècle où on voit une quantité phénoménale de bâtards qui n'est rien d'autre qu'un homme entre deux mondes. Le mot bâtard, finalement, que l'on pense au pain qui mélange différentes sortes de céréales, une épée bâtarde qui se porte avec une ou deux mains, l'idée, c'est qu'elle est entre deux couples. D'accord ? Pour parler d'un personnage. Alors, depuis les années 2000, vous avez des centaines d'études sur les bâtards. À l'heure actuelle, c'est un objet extrêmement à la mode. Hein. J'ai pas vraiment suivi le courant, c'est juste que je me suis rendu compte que c'était intéressant en regardant que d'autres faisaient la même chose. Pour parler d'une lecture très récente, en boutique, alors je travaille pas pour eux, donc c'est pas une publicité, hein. Mais là, vous avez, si vous ne savez pas quoi faire en ce moment, hein, une fois que vous aurez donc tout lu ce qui a été proposé, vous pourrez lire donc le Duc du Maine, qui n'est rien d'autre que le bâtard de Louis XIV. Vous voyez même que sur la couverture, le mot n'apparaît pas. D'accord ? Donc là, on est rentré dans une autre dimension. Le Duc du Maine, le fils préféré de Louis XIV, dont les faits historiques, c'est vrai, mais c'est un bâtard. Il a été légitimé par le roi de son vivant, et le roi leur dit très clairement qu'il n'héritera jamais. Le roi lui dit très clairement où est sa place. Bien sûr, c'est le fils préféré, mais c'est quand même un bâtard. Et vous voyez que la biographie de la personne, elle ne mentionne même pas, hein, cet aspect-là. Alors, si on revient au Moyen-Âge, hein, on peut tomber sur des personnages comme celui-ci. C'est le bâtard le plus célèbre du XVe siècle, c'est Jean de Dunois. Alors, peut-être est-il mal connu, c'est l'un des compagnons de Jeanne d'Arc. Vous savez que le mot compagnon, finalement, il découle des compagnons de la libération. Vous voyez que c'est très politique comme terme. C'est un compagnon de la libération de la France au XVe siècle, mais sous Jeanne d'Arc, si vous voulez. Quand on explique que Charles VII a reconquis la France sur les Anglais, c'est pas exactement vrai, c'est lui. C'est l'un des plus célèbres hommes d'armes du XVe siècle. C'est un bâtard. Alors, ce portrait-là est présumé de Jean de Dunois, il est d'une collection privée. Bon, là vous avez sur un, comment dire, une miniature sur un manuscrit où on représente Jean de Dunois. Alors bien sûr, il est armé, vous voyez son armure, il a enlevé donc son haut. Vous voyez les armes que porte un bâtard. Alors qui est Jean de Dunois ? Jean de Dunois descend de Louis d'Orléans, qui n'est autre que le frère du roi. Alors il porte bien sûr les fleurs de lys, et vous voyez la brisure, cette espèce de partie blanche qui parfois est rouge, qui montre très bien qu'il est de la famille de France, mais pas la branche légitime, pas la branche aînée. Alors voilà, voilà l'un des plus célèbres bâtards. C'est un personnage que j'ai beaucoup étudié dans ma thèse, dans la mesure où il vient beaucoup en Savoie, parce qu'il sert d'intermédiaire dans les négociations entre le duc de Savoie et le roi de France. Vous savez que le duc Amédée VIII a énormément arbitré la guerre de Cent Ans entre les Bourgognes et les rois de France. Jean Dudinois est souvent à Lausanne, souvent à Genève, qui sont des villes savoyardes, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et voici donc Jean Dudinois, personnage, donc l'un des principaux hommes de guerre seulement. Le voici ici figuré, et vous avez en dessous, alors je ne sais pas si c'est très lisible, je l'ai fait sur Paint hier, vous avez une phrase de Jeanne d'Arc qui est célébrissime à son égard. Hein, vous savez que Jeanne d'Arc, au-delà de la légende, si vous lisez le recueil des lettres de Jeanne d'Arc, c'est un personnage d'une très grande violence verbale. Jeanne d'Arc, bon, lisons l'extrait. Elle s'adresse à Dunois et elle lui dit « Bâtard, bâtard !» Elle l'appelle. « Au nom de Dieu, je te commande que tantôt que tu sauras la venue d'Idi Falstaff, c'est le capitaine de guerre anglais, que tu me le fasses savoir, car s'il passe sans que je le sache, je te promets que je te ferai ôter la tête. » Donc là, vous avez Jeanne d'Arc, bon, qui est issue, d'après les recherches actuelles, non pas la petite bergère paysanne, mais ce qu'on appellerait la classe moyenne aujourd'hui, si vous voulez faire un anachronisme, hein, c'est les couches supérieures, hein, de la paysannerie, les couches inférieures de la noblesse. Bon, vous voyez qu'elle parle comme ça au cousin du roi de France. Hein. S'il n'avait pas été un bâtard, peut-être aurait-elle employé un autre langage. Bon, tout le monde sait qu'en tout cas, les personnages qui sont proches de Jeanne d'Arc sont fascinés par elle. Dunois en fait partie. Hein, mais quand on dit fasciné, c'est vraiment... ils sont fans, quoi. Hein, je veux dire, ils adhèrent à tout. Hein, c'est assez incroyable à lire dans les actes du Moyen-Âge quand ils la décrivent. Et vous avez l'inverse, ceux qui la haïssent. Vous avez des gens proches du roi qui la haïssent et qui, quand ils parlent d'elle, sont d'une grande violence, eux aussi. Alors, maintenant qu'on a fait un petit tour de plusieurs bâtards célèbres, on se demande, mais qu'en est-il de la Savoie ? Alors, le plus célèbre bâtard de Savoie, c'est certainement René de Savoie, qui est assez peu connu, il n'a pas encore un vrai historien là-dessus, c'est quelqu'un qui vit à cheval entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, on parle quand même de quelqu'un qui est l'oncle de François Ier, hein, vous savez que la dynastie savoyarde avec Louise de Savoie, c'est la mère de François Ier, René est le frère illégitime de Louise de Savoie. Le bâtard René est un des plus grands hommes de guerre du début du XVIe siècle, il est de toutes les batailles dans le rang français, hein, vous savez qu'au début du XVIe siècle, la Savoie est dans le camp français contre les impériaux, ça changera avec le temps. Ici, vous avez en vente, j'ai trouvé ça hier soir, vous avez en vente une lettre de René le Bâtard. Hein, qu'est-ce que 800 ou 1000 euros pour une lettre de René de Savoie, hein, il y a un énorme business là-dessus, hein, sur les documents médiévaux, de plus en plus, on en croise à 300 euros, 3000 euros. Bon, voilà, il y a un énorme travail à faire là-dessus parce que des actes inédits sortent tout le temps. Et sur le Moyen-Âge, on croise des trucs en vente sur eBay, sur Le Bon Coin, à 300 euros, et qui peuvent parfois révolutionner nos connaissances sur un domaine. Alors là pas vraiment. À part pour l'anecdote, vous avez en dessous René qui, certainement de sa propre main, hein, signe le tout entièrement votre bon ami, le bâtard de Savoie. Je ne sais pas si vous le voyez. D'accord. Le tout entièrement vôtre, bon ami, le bâtard de Savoie. Alors certainement que le haut n'est pas de sa propre main, certainement qu'un secrétaire signe le haut, mais le bas, il y a de fortes chances que ce soit vraiment sa main qui signe. Voilà. 800 euros. Alors, si le bâtard René de Savoie est un homme donc célébrissime, hein, qui va se brouiller d'ailleurs avec son frère le duc de Savoie, hein, les deux, il va être chassé de la cour, hein, c'est sur eux. Voilà une divergence d'opinion sur la politique française, il va se brouiller avec le duc, et finalement, le duc lui-même va essayer de briser les actes de légitimité du bâtard, c'est-à-dire que son père l'a légitimé quand il était duc, et son frère essaie de le délégitimer après la brouille. Beaucoup pensent que l'attitude de René est à l'origine de la brouille entre la Savoie et la France, et vous savez qu'en 1536, les armées françaises entrent en Savoie et l'occuperont, hein, jusqu'en 1559. Alors voilà, on pourrait passer donc à René Savoie, que je connais très mal, et finalement, il n'y a pas énormément de documents sur lui, ni beaucoup de choses à lire. Voilà, c'est un personnage très intéressant, mais il y a peu de choses dessus. On peut passer à deux autres bâtards. Donc le premier sur lequel j'avais travaillé il y a quelques années, c'est celui-ci. Donc c'est Humbert le bâtard de Savoie qui vit au début du XIVe siècle et qui hérite de la seigneurie tout proche d'Arvillard. Au-dessus de lui, vous avez un autre Humbert le Bâtard qui vit 100 ans plus tard et qui, lui, est comte de Romont, dans le pays de Vaud. Alors, j'ai retrouvé son sceau. Hein, vous avez à gauche, dans l'armorial de Foras, les deux blasons des deux personnages. Vous reconnaissez en haut, donc, Humbert, comte de Romont, qui est un personnage qui est le frère illégitime du duc Amédée VIII. C'est un personnage qui va partir en croisade, hein, qui va à Nicopolis en 1396. Il va être prisonnier, il va passer plusieurs années en prison chez les Turcs. Hein, et on peut trouver donc, dans ses armes, vous voyez, les fameux croissants et ainsi de suite, et vous voyez encore une fois la brisure de la croix de Savoie qui montre que c'est soit un cousin, en tout cas là, en l'occurrence, un bâtard. Vous avez en bas donc, le fameux Humbert de Savoie-Arvillard. J'ai retrouvé le sceau qui a permis à Foras de dessiner ces fameux têtes de loup. Bon, là, soit c'est Foras qui l'a beaucoup abîmé, soit il l'a beaucoup inventé, parce que pour le moment, on ne voit pas grand-chose dessus. Une archiviste de Turin m'a envoyé la confirmation que ce sont bien sur un autre sceau qu'elle a retrouvé à Turin des têtes de loup de face, hein, et non des léopards, comme l'a pu le dire d'autres personnages. Alors, Humbert de Savoie, c'est un personnage qui est presque le numéro 2 du duché, alors qu'il est bâtard. Hein, et son homologue, Humbert, le frère du comte Amédicis, sont tous les deux des hommes de guerre, sont tous les deux des célébrités. Humbert, par exemple, Humbert, le comte de Romont, connaît l'empereur Sigismond, fait partie de l'ordre du dragon, avec du même plan que les plus grands seigneurs européens. Donc là, on part sur une grande échelle, à l'échelle européenne. Si on passe sur ces personnages, là, j'ai retrouvé Humbert le Bâtard. Là, vous voyez le genre de document du début du XIVe siècle. Là, vous avez des gages, c'est-à-dire un homme de guerre est payé par le comte de Savoie pour un service armé qu'il a effectué. Là, vous avez donc le bâtard Humbert, au début du milieu du XIVe siècle, 1347. Il est allé combattre en Bourgogne et il va toucher, c'est ici, il va toucher la somme de 620 florins d'or de la part de son frère, hein, payé par son frère, pour pouvoir effectuer un service au nom de la Savoie. Ce personnage, qui est pourtant un bâtard, est le premier homme de guerre du comté de Savoie, le plus important, et lui non plus n'a pour le moment pas de biographe ou de choses claires écrites sur lui. Ce document-là est intéressant, si vous voulez, parce qu'à la fin du 19e siècle, les historiens qui ont mal saisi ce qu'est un bâtard au Moyen-Âge vous expliqueront que dans tous les comtes de guerre, comment voir si un royaume est sur le déclin ? Bien, vous comptez les bâtards. Plus il y a de bâtards, plus le royaume est censé être sur le déclin. Alors en fait, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que si vous regardez donc ce compte-là, que j'ai pris en photo à Turin, dans ce compte-là, vous trouvez des quantités astronomiques de bâtards. C'est-à-dire qu'à chaque personnage, chaque seigneur vient avec un frère ou un cousin, et quasiment toujours un bâtard avec lui. Vous avez par exemple tout en haut, alors je suis désolé, on ne voit pas bien, mais là vous avez la dépense pour le seigneur de Varambon, et vous avez tout en bas Humbert, le bâtard de Varambon, qui est avec lui. Certainement son frère bâtard, ou son fils bâtard. Voilà. Ils sont toujours accompagnés d'un... Ça fait quelqu'un en plus, c'est pratique aussi. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas prétendre avoir la même paie. C'est quelqu'un qui va faire le même service, mais qu'on va payer moins cher. Alors, il faut donc avoir toujours en tête que... Alors, je suis désolé, je n'ai pas de grandes compétences concernant les cartes. Je me suis servi donc d'une carte actuelle où on voit bien le relief pour comprendre l'entrée de la vallée de la Maurienne, avec la chambre ici. Alors, finalement, on ne va pas aller dans l'extrême qui nous ferait penser que le bâtard est un homme complètement comme les autres. Si on regarde les documents, beaucoup sont extrêmement fiers de montrer, s'ils ont réussi leur carrière, qu'ils proviennent d'une alliance illégitime, et ils sont donc très fiers de rappeler qu'ils sont bâtards. On a vu le cas de Dunois. Dunois se fait appeler soit Dunois, soit le bâtard d'Orléans. Ce sont des personnages qui aiment rappeler qu'ils sont à part. Ça leur donne quelque chose en plus. À l'inverse, vous avez quantité de seigneurs qui aiment taire ça. C'est-à-dire que dès que leur père ou leur frère leur a donné une seigneurie, Par exemple, vous avez, je vous donnerai l'exemple du bâtard de la chambre à qui on donne la maison forte de Saint-Rémy de Maurienne. Dans tous les actes, il s'appelle Saint-Rémy, le seigneur de Saint-Rémy. Et donc, on aime taire la bâtardise, on essaye de gommer l'origine illégitime. Pourtant, si on regarde toute l'histoire du XVe siècle savoyard, à chaque fois qu'il y a un coup tordu, un assassinat, c'est toujours la main du bâtard. Parce que les gens de cette époque voient les bâtards comme quelqu'un déjà dont la main a déjà été salie par le péché. Et à titre d'exemple, moi je trouvais à peu près une dizaine de personnes qui sont directement des assassins au poignard au XVe siècle savoyard et qui sont tous des bâtards. À titre d'exemple, vous avez Philippe de Savoie, le fils du duc Louis, qui fait assassiner le maréchal de Savoie. C'est pas lui qui le tue, il demande au bâtard de la Rochechouart de l'égorger. Et il laisse le cadavre au sol. C'est-à-dire que, bon, moi je vais pas me salir par le meurtre, mais je peux demander à quelqu'un qui est déjà sale par naissance. Et finalement, vous voyez, on est dans cette logique-là. C'est pas spécialement un homme comme les autres, il est un petit peu à part. Bon, je vais pas vous détailler tous les autres, mais j'en compte à peu près une dizaine qui sont des assassins directs. Voilà. Alors, tous ces bâtards de la Savoie mériteraient, si vous voulez, une étude plus approfondie, qui est longue. Vous avez des bâtards extrêmement peu connus, le bâtard Augier, par exemple, bâtard du comte Aymon, qui est présent au début du XIVe dans tous les actes, et on ne sait pas vraiment qui c'est. Voilà. Sans compter tous les autres qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne connaît pas encore. Alors là-dessus, on peut arriver donc à nos La Chambre, enfin, et parler des seigneurs de la Chambre, qui sont très connus, en gros, hein, à partir de la fin du XIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle, la fin du Moyen-Âge. Alors, je vous ai mis l'ère d'influence des vicomtes de Maurienne, qui portent assez mal leur nom. Le mot vicomte, le titre de vicomte, à l'heure actuelle, personne n'est capable vraiment d'expliquer qui leur a donné, à quelle période exactement. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont, après l'évêque, en tout cas, la prééminence du pouvoir dans la vallée de la Maurienne. Vous savez que la vallée de Maurienne est extrêmement cloisonnée et finalement découpée en sphères d'influence. Hein. Une partie va à l'évêque, une partie au chapitre, une partie à Saint-Michel-de-la-Cluse, dans la vallée de Suse. Bref, chacun a sa sphère d'influence. Hein, et vous voyez que les La Chambre, sur la basse vallée, ont mis la main sur quasiment tout. Hein, c'est vraiment à peu près de La Chambre jusqu'à Aiguebelle, quasiment une grande partie des droits qui rapportent, par exemple des droits à péage, des droits sur les mines, les fameuses urtières. J'ai réussi à retrouver toute la documentation qui parle des revenus générés par leurs mines, hein, parce que pour beaucoup c'est de la légende, en fait non. Hein, on sait que les La Chambre extraient des urtières et d'autres mines, il n'y a pas que celle-là, du plomb, beaucoup de fer, et qu'ils sont affranchis d'impôts là-dessus, hein, qu'ils marquent tout leur lingot d'un éléphant. Enfin, ouais, c'est assez passionnant à voir là-dessus, et sont des actes qui sont des châteaux privés de Haute-Savoie et de Savoie. Et finalement, on s'aperçoit que ces personnages sont extrêmement riches, alors que leur possession, c'est assez minime, si vous voulez. Si vous regardez à l'échelle du royaume de France, des comtes, des vicomtes, sont des gens qui, à cheval, peuvent faire 3 jours tout en restant chez eux. Là, il y a une espèce de hiatus entre la puissance des La Chambre et la modestie de leur possession. Pourtant, c'est des gens, à la fin du XIVe, qui parlent avec les rois de France Charles VIII, Louis XII, qui sont des proches. Donc là, un vrai hiatus entre les deux, si vous voulez. Alors, d'où vient leur puissance? Les historiens ont du mal à accepter la puissance de ces personnages-là, surtout quand elle vient de moi, ça fait un peu chauvin, la Maurienne. Mais, si vous voulez, les actes sont là, la vérité historique et les faits sont là. Les La Chambre occupent peut-être les 3 premiers rangs des nobles les plus puissants de tout le duché de Savoie, de Nice jusqu'au lac de Grandson, Neuchâtel, de Lyon jusqu'à Milan. Ce sont parmi les tout premiers, les plus puissants de toute la Savoie. Et on le voit en 1100, on le voit en 1200, en 1300, en 1400, en 1500. C'est quelque chose qui ne change pas. Encore faut-il trouver les actes. Vous avez un mystère, c'est-à-dire une espèce de pièce de théâtre à vocation un peu pédagogique, religieuse. Le mystère de Saint-Bernard de Menton, dès les premières lignes, il y a le seigneur de Menton cherche à marier sa fille à quelqu'un d'important, et voici ce qu'on lui dit. En Savoie, ce me semble, il est l'hôtel de la chambre, de Miolan, d'autres et plusieurs, nobles maisons, notables et grands seigneurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle de la Savoie, malgré toutes les familles, les seigneurs de Torrent, Compès, sous les Glières, les seigneurs de Menton, au bord du lac d'Annecy, les Viry, tout proche de Genève, en fait, c'est Miolan et la chambre qu'on retient. C'est-à-dire de très grandes familles, qui d'ailleurs tous les deux vont s'éteindre au milieu du 15e, début du 16e. Alors, ce sont des personnages, ce sont des maisons considérables. Voilà. Alors le problème, c'est quand on amène ça à un historien, il vous dit, la chambre, combien, c'est une ville aujourd'hui, combien d'habitants? Alors, vous n'êtes pas en train de découvrir qu'il n'y a plus grand-chose à voir à la chambre, hein, tandis que si vous baladez à Miolan, bon, il y a un immense château, il y a quelque chose, quoi. De la puissance de la chambre, il ne reste pas grand-chose de visible, sinon des documents. C'est bien plus important. Alors, quand on va dans ces documents, on s'aperçoit de quoi? J'avais fait une communication ici sur le testament de la chambre. C'est l'un des plus vieux testaments de droit romain en Savoie, quasiment plus complet que ceux des comtes de Savoie. Si vous regardez la qualité de l'écriture, la qualité des termes en droit, le seigneur de la chambre est en avance sur tous les personnages alentours. Si vous regardez le testament du comte de Genève, c'est traviole, c'est sale à lire. On est vraiment là dans une opposition de style, et on pense que le droit romain, le vrai droit romain, celui qui est beau, celui qui est propre, celui qui est clair, il revient en Savoie par la Maurienne. En tout cas, c'est là qu'on voit. Bon. De la même manière, quand on regarde, c'est la chambre, on s'aperçoit que, mettant quasiment la main sur toute la basse vallée, mettant la main sur les cols, leur problème, c'est le débouché de la Maurienne. C'est-à-dire que contrôler Épierre, Aiguebelle, là c'est plutôt le comte duc de Savoie, il y a une opposition de style. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent un autre moyen de pénétrer en Savoie par la Maurienne, c'est la vallée des Huiles. L'intérêt, c'est que quand l'arc déborde, hein, vous avez quantité d'actes jusqu'au 18e, jusqu'à l'endiguement de l'arc, qui vous explique que l'arc emporte les digues, que les paysans des Urtières et des autres en ont marre de la corvée pour rétablir les digues. Bref, c'est un boulot qui certainement est annuel, où on prend tous les paysans et on va curer, on va refaire la digue. Et donc, il n'est pas impossible qu'à certains moments de l'année, certainement à la fonte des neiges, vous avez la vallée des Huiles qui est privilégiée pour traverser en Maurienne. Alors là, du coup, on comprend. C'est-à-dire que la vallée des Huiles, tous ces documents où je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que cette vallée des Huiles? Qu'est-ce que c'est que ce château de l'huile? Pourquoi mettre la main sur La Rochette, au débouché de la vallée, sur Presles, La Table? Enfin bref, vous connaissez peut-être. En fait, c'est une voie secondaire. C'est-à-dire que quand on ne peut pas passer Aiguebelle, tout le monde passe par la vallée des Huiles. Et la vallée des Huiles, c'est la chasse gardée dès la chambre. Alors, vous voyez que, d'une part, il y a cette vallée qu'il va falloir contrôler. C'est une chance pour les Lachambre, parce que la famille qui possède la vallée des Huiles, ce sont les Maurestel, ils vont s'éteindre au XIVe siècle, et les Lachambre vont faire une OPA là-dessus, en gros. Ils vont prendre la vallée, en gros. Quasiment entièrement, du Bourget, leur huile, jusqu'en bas, jusqu'à La Rochette, les Lachambre vont réussir à s'accaparer cet endroit-là. Reste le débouché de la Maurienne, c'est-à-dire Chamoux, Châteauneuf, Chamousset, Sainte-Hélène, et tout ce que vous connaissez à l'entrée de la vallée. Et c'est là que j'en reviens aux bâtards. C'est-à-dire que les Lachambre vont se servir de leurs différents bâtards pour les caser dans ces petites seigneuries, sans trop faire peur à leurs voisins, sans trop faire peur au comte de Savoie, puis au duc de Savoie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je prends l'exemple de trois bâtards de Lachambre, le premier, et on en voit dès la fin du XIIIe siècle, mais on ne va pas tous les faire. Le plus important, il vit peut-être vers 1390-1400, il s'appelle Jean. De toute façon, vous savez que chaque grande famille a son prénom préféré, que l'historien dise Leitname ou prénom leader, c'est-à-dire le nom qui reste. Par exemple, ça va être Nantelme de Miolan. Les Nantelmes, on va en trouver un paquet. Les Lachambre, c'est souvent Jean ou Richard. Voilà. Donc là, vous allez avoir tous les bâtards qui s'appellent tous Jean. Donc il est extrêmement difficile de savoir de qui on parle. Duquel. Et donc, ils vont avoir ce qu'on appelle des surnoms, où là, vous avez Jean le Vieil. C'est-à-dire qu'il y a... C'est le plus vieux, quoi. Hein, c'est le senior en latin. Et pour le distinguer des autres. Alors, qui c'est? C'est donc, voici l'arbre de la chambre, je ne sais pas si on voit bien. Alors au sommet, vous avez Jean III de la chambre. Il faut remonter une génération au-dessus, Jean II de la chambre. Jean II de la chambre est connu des historiens, c'est un homme de guerre important, et comme les comtes de Savoie, il met un point d'honneur à posséder de très nombreux bâtards. Alors, pourquoi des bâtards? Bon, je vous apprends rien, ce sont des mariages de raison, des mariages arrangés, et l'amour en est exclu, et finalement, les seigneurs se retrouvent à avoir des relations extra-conjugales, on ne va pas rentrer dans les détails, et vont se retrouver à avoir plusieurs bâtards. Ça peut être aussi un moyen assez commode de voir si tout marche bien. Là, vous avez un exemple qui est, que j'avais développé dans mon master. Cette personne qui est en haut à droite, Léonette d'Aigueblanche, est la dernière fille de la très puissante famille de Tarentaise que sont les Aigueblanche. Les Aigueblanche sont ceux, par exemple, qui ont fondé la collégiale Sainte-Catherine d'Aigbel, aujourd'hui disparue, et ancien Serge Joyeux, quoi. Les gens qui la décrivent au XVIe siècle la décrivent comme l'un des plus beaux monuments de la Savoie. Aujourd'hui, aujourd'hui ce qu'il en reste à Rendant, c'est pas grand-chose, quoi, si vous voulez. Ou à Rendant, ou, enfin, la commune a changé de nom il n'y a pas longtemps. Voilà. Parce qu'à l'origine, les deux sont Aigbel, se sont scindés au XVIIIe. Donc la logique aurait voulu qu'en se réunissant, il s'appellerait Aigbel. Mais bon, je ne sais pas comment le nom a été décidé, je sais pas. Val d'Arc, non, je ne sais pas, il y a une consultation publique, il y a quelque chose.
C'est la communauté de communes qui s'appelle Val d'Arc.
Mais qui a décidé du nom?
Il y a deux ans, trois ans.
C'est... Parce que le Val d'Arc, finalement, c'est un peu toute la Bourienne, quoi, c'est pas Aigbel.
Non, c'est Val d'Arc et commune déléguée d'Aigbel et de Rendant.
Ah, ok, d'accord, okay, bah, j'ai l'ignoré. Alors, vous avez donc les Aigueblanche, qui est la dernière de sa famille. Donc elle sait que sa famille peut disparaître. Si elle n'était pas là, la famille disparaît. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a à peu près une dizaine d'enfants, dont le fameux Gaspard de Montmailleul, qui est l'aîné, parce que ses frères décèdent tous. Pour voir si Gaspard est digne d'être son héritier, on s'aperçoit, si on calcule bien, que Gaspard a un enfant bâtard, Jean Bâtard de Montmailleul, vers les 14 ans, 13 ans. Ce qui n'est pas commun, en général. On peut penser donc que la grand-mère, Léonette, lui a envoyé une jeune paysanne, ou en tout cas quelqu'un des franges inférieures de la société, pour voir si tout marche bien. Voilà. Et donc vous avez donc la naissance de Jean qui confirme qu'il est en capacité de procréer un héritier. Hein, et chose très rare d'ailleurs, la grand-mère Léonette d'Aigueblanche, dans son testament, lègue une rente à ce petit bâtard. Ce qui est extrêmement rare et on le retrouve nulle part ailleurs, certainement, parce que là, il n'y a qu'une dimension affective là-dedans. On ne peut pas donner 5 sous de rente à quelqu'un au Moyen-Âge central sans qu'il n'y ait pas l'envie que cette personne elle soit entretenue. Voilà, parce qu'elle le considère comme quelqu'un de sa famille, comme son petit-fils, ce qui doit être rare au début du XIVe siècle. Voilà. Alors, revenons donc, ça c'est la chambre. Vous avez donc Jean III au sommet, dont le frère bâtard est Jean le Vieux, le Vieil, seigneur. Ce Jean senior, qui est-il? C'est quelqu'un qui va finalement changer de nom au cours de l'histoire. Au début, on le voit comme Jean Bâtard de la Chambre. Plus le temps avance, Jean Bâtard de la Chambre, seigneur de Chamousset. Des fois, dans d'autres actes, on va le retrouver comme Jean de la Chambre et Chamousset. Parfois, on l'a appelé Jean de Chamousset. Et là, il va taire sa bâtardise. Et puis à la fin, on l'appelle Jean le Vieil, parce qu'il y a tellement de bâtards Jean qu'il faut bien le distinguer des autres. Alors, on peut trouver le qualificatif de chevalier dans plusieurs actes. Donc c'est vraiment un combattant, un personnage de premier plan. On s'aperçoit aussi qu'il est officier du comte de Savoie. Il est châtelain en Tarentaise, à Briançon. Bon, il fait des tout petits mariages. On s'aperçoit qu'il a lui-même une descendance. Et sa descendance va laisser tomber le nom de la chambre et s'appeler Chamousset. Alors, dans ce document-là, bon, je suis désolé, c'est un peu petit. Là, vous avez son fils qui est investi de la maison forte de Chamousset, en haut à droite, et en premier de sa maison forte de Chamousset. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, qui a écrit qui autrefois était au seigneur des Urtières. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez très bien qu'il a fait souche. Les bâtards ont fait souche, il reste de la famille, et la chambre réussit leur coup. Quand vous êtes à Chamousset, vous vous heurtez aux prétentions du comte de Savoie, vous vous heurtez aux La Rochette, vous vous heurtez au Montmailleur, vous vous heurtez au Miolan. Et donc, de caser un bâtard, un cousin, c'est pas grave, ça fait moins peur. Et on le voit, ce n'est pas un exemple isolé. Donc là, vous avez quelqu'un qui va faire souche. Si on passe à la génération suivante, vous avez, dans l'ordre, Urbain, comte de la, vicomte de Maurienne, Urbain de la Chambre, on retrouve deux autres bâtards à sa droite, ce sont ses frères, Jean de Saint-Rémy et Jean d'Aiguebelle. C'est exactement la même logique que Chamousset. On case à l'entrée de la Maurienne à Aiguebelle un bâtard, tandis que l'autre, Jean de Saint-Rémy, c'est plutôt pour, comment dire, exclure des petits seigneurs de Saint-Rémy qui commencent à prendre de l'importance. Et donc on rappelle bien aux petits seigneurs locaux que le vrai patron, c'est les Lachambre. Bien sûr, c'est un bâtard, mais bien sûr, c'est un Lachambre aussi. Donc, dans cet exemple-là, vous allez avoir Jean de Saint-Rémy, qui va être installé par son père à Saint-Rémy-de-Maurienne, de la même manière que lui, on va le retrouver sous Jean, bâtard de Lachambre, seigneur de Saint-Rémy, dit Saint-Rémy. C'est-à-dire que quand on l'appelle, on lui dit Saint-Rémy. D'accord. C'est comme ça qu'on procède avec lui. Il faut savoir que il va garder cette maison forte de Saint-Rémy toute sa vie. Son nom va être connu, on le retrouve dans une chronique à un moment où on dit Saint-Rémy. Alors Saint-Rémy, c'est certainement lui, donc le bâtard. Ce personnage-là tient pour ses frères des métrallies, c'est-à-dire des petites unités d'exploitation. En gros, c'est lui qui est l'agent de ses frères. Il travaille pour ses frères, il est inféodé à ses frères, donc mis sous quand même la protection des frères, mais aussi sous la dépendance de ses frères. C'est un personnage donc dont on connaît la mère, ce qui est rare. Vous savez, souvent on parle d'un bâtard, on ne sait pas qui est la mère. On sait qui est le père, si c'est le seigneur, mais la mère, on ne sait pas. Là, un procès pour lui enlever le nom de la chambre nous révèle sa mère. Sa mère est donc Catherine, fille de Pierre Avenier, alias Rondet de Villars-le-Grand. Bon, voilà. En tout cas, on a une personne là qui n'est pas dans les strates inférieures de la société. Ce n'est pas des paysans. Là. On a quelqu'un qui vient du ce qu'on appelait des gros paysans, des laboureurs, c'est-à-dire des paysans aisés. Là, ce n'est pas une relation de dépendance comme on peut le voir ailleurs. Alors, on peut passer donc à Jean dit d'Aiguebelle. On le voit ici. Alors là, vous avez carrément... Parce que les exemples dont je vous parle, je n'ai pas pu les prendre en photo, je n'ai pas eu l'autorisation, mais celle-là, oui. Là, vous avez Jean, à gauche, bâtard des camérés, c'est-à-dire bâtard de la chambre, appellatif vulgaritaire des aquabella, appelé ordinairement Aiguebelle. Ou d'Aiguebelle. C'est-à-dire que l'autre s'appelle Saint-Rémy, lui on l'appelle d'Aiguebelle. Et puis le vieux on l'appelle le vieux. Voilà. C'est comme ça que ça roule. Et donc là on arrive au début 15e siècle. Le bâtard d'Aiguebelle, lui, il gravite vraiment dans la sphère de ses frères, de ses cousins. Vous avez, d'ailleurs, les actes de cette époque ne disent pas mon bel oncle, mon demi-frère. Il y a vraiment écrit notre frère, mon oncle. Et le dernier des la chambre, de la branche aînée, qui est Gaspard, on a retrouvé donc son testament, il cite tous les bâtards de la chambre pour leur faire des donations. C'est-à-dire qu'il veut rappeler qu'ils font partie de la famille. La nature des donations, d'ailleurs, est très intéressante. Il dit que son oncle est très proche de lui, et en conséquence, il va donner aux fils, aux filles de son oncle des dots pour se marier. C'est-à-dire que là, non seulement il agit en parent proche, mais en protecteur. Les grands seigneurs, souvent, font des donations à l'Église pour que les femmes nobles pauvres puissent se marier. Donc là, vous avez le seigneur de la chambre qui montre que ces bâtards sont parfaitement intégrés à sa famille, à son affection, hein, finalement. Et il lui donne, en plus, des sommes qui sont assez importantes. Des sommes comme 100 florins, 40 florins, 150 florins. Plus, à tous ses frères bâtards, il leur donne une centaine de florins dans le but de s'acheter une maison. C'est-à-dire une maison noble, certainement une maison forte ou autre chose. Alors, la dernière dimension, et je finirai avec le grand 3, la dernière dimension, c'est que Gaspard sait que quelque chose se passe, qu'un changement va avoir lieu. Il est le dernier mâle légitime de sa famille. Causa mortis, c'est-à-dire parce qu'il sait qu'il va mourir, il édicte son testament, et il sait qu'après lui, ça va être le déluge. C'est-à-dire que il sait que tous les personnages que vous voyez dans l'arbre généalogique vont réclamer au nom de leur femme une part de l'héritage de la chambre. Quand on regarde, Jean était l'aîné, Il est décédé, il est marié à une Chaland, donc les vicomtes d'Aoste, une puissante famille. Ses deux sœurs sont mariées à un Miolan, un Lurieux. Donc là, vous avez des personnages de premier plan, surtout que c'est la mère d'Anthelme de Miolan, maréchal de Savoie, numéro 2 du pouvoir savoyard, à la fin du 15e siècle. De l'autre côté, ses autres sœurs sont mariées à des Cécelles, à des Montmailleur, à des Viry, à des Montbel. Là, vous avez le gratin des grandes familles seigneuriales du 14-15e siècle. Tous ces gens-là sont des candidats à l'héritage. C'est-à-dire que tous ces gens-là vont dire « Ah, moi je veux bien ce château. Bon, moi il n'y a plus de château, je veux bien une somme d'argent. Moi je veux bien cette rente, moi je veux bien ce péage. » Tout le monde va vouloir grappiller les miettes de l'héritage, qui est conséquent, qui rapporte beaucoup d'argent, on l'a déjà dit. Or, on connaît l'histoire. Le seul qui va rafler la mise, c'est cette branche-là au centre, ce sont les Cécelles. Vous me direz, pourquoi eux, pas les autres? On voit très bien qu'il n'y a pas de fille aînée, on voit qu'elle est au milieu. Bon, c'est une des pistes, un des axes des recherches de ma thèse, c'est que les Cécelles sont d'anciens, on va dire troublions, sont d'anciens seigneurs qui ont posé des grands problèmes en Savoie. Le personnage qui est au-dessus, Jean de Cécelles, est un des plus fabuleux hommes de guerre que la Savoie ait compté. C'est un personnage qui va soumettre, par exemple, Fribourg à l'autorité du duc de Savoie. Et Berne va même se ranger aux côtés de la Savoie sous l'action de ce personnage-là. Jean de Cécelles, donc le maréchal, c'est un des numéros 1 de la Savoie. Il va entrer en conflit avec le duc Louis. Peut-être que vous connaissez l'histoire, mais le duc Louis, de par sa femme Anne de Lusignan, a ramené une centaine de personnages qui sont des chypriotes, qu'elle va favoriser, à qui elle va donner... Il suffit de regarder les cadeaux des étrennes, des vêtements, des perles, enfin, voilà. Et on voit ce que ramassent les Savoyards, et donc on voit tout de suite sur quoi porte le conflit, mais c'est une histoire d'argent, une histoire de faveur du prince. Et finalement, Jean de Cécelles va être un des premiers, un des chefs ligueurs pour dire « il faut chasser les Chypriotes, il faut les chasser ». Et pour ça, donc c'est un chapitre de ma thèse, une grande partie des personnages qu'on voit en haut vont être bannis de la Savoie. Cécelle va se réfugier en France, où des envoyés du duc vont demander à ce qu'on lui retire son collier de l'ordre de Savoie, qu'on lui retire ses pensions, et ainsi de suite. Hein, vous aurez le seigneur de Varambon, l'autre meneur, son château sera peut-être même rasé en punition. Et donc là, on arrive vers 1453-54, le dernier Gaspard meurt, et Cécelle essaye de revenir un petit peu. Et je ne trouve pas d'acte probant, mais une espèce de compromis avec le duc. Je reviens, je me calme, mais en échange, je veux la chambre. Voilà. Alors les la chambre, donc, disparaissent, sauf les femmes. Vous savez que souvent, on considère les familles comme des lignages patrilinéaires, de père en fils, de père en fils, de père en fils. C'est faux, il n'y a qu'à remonter dans la plupart de nos arbres généalogiques, où on trouve des pères inconnus, toujours. Hein? Voilà. Moi, vers 1900, il y a une Catherine Brugnon, père inconnu. Et donc le nom s'est transmis, le mien, par cette femme. Donc voilà, là vous avez, c'est une autre vision qu'il faut avoir. Mais les gens du Moyen-Âge l'avaient. Ils savent que les femmes transmettent le sang, ils savent que les femmes transmettent le nom. D'ailleurs, les Cécelles doivent passer un compromis, ils doivent abandonner le nom de Cécelles. C'est-à-dire que Gaspard leur donne tout son héritage à condition qu'il porte le nom et les armes pures de la chambre. C'est-à-dire que beaucoup les appellent les Cécelles de la chambre, à la suite d'un historien issu des comtes de Cécelles, hein, le grand-père de Jean de Cécelles, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et qui a encore les archives de la chambre, ce ne sont pas des Cécelles de la chambre, ce sont des la chambre. Ça fait partie du compromis. Ils ne portent pas de moitié les armes de la chambre, de moitié les armes de Cécelles, mais complètement les armes de la chambre, qui sont d'ailleurs des fleurs de lys. C'est un mystère de plus. Le plus ancien blason des la chambre que j'ai pu retrouver, il y en a certainement d'autres, de 1310, ce sont de très belles fleurs de lys, comme un roi de France. Le mystère demeure, hein, si quelqu'un a une idée là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est les portes des armes qui sont les mêmes qu'un roi de France. Bon. Donc nos Cécelles vont récupérer le tout, devenir des seigneurs de la chambre, et vont engager des procès pour exclure tous les bâtards dont nous venons de parler. C'est-à-dire que tous les personnages que vous avez à votre droite, ici, donc Pétremant, Jean, Urbain, sont tous des bâtards. D'ailleurs, on connaît la mère de Pétremant. La mère de Pétremant se fait appeler Françoise Derrier, hein, la fille de Pierre Derrier, c'est écrit dans un document. Hein. Bon, c'est un nom qu'on voit souvent, Maurienne, quand même, derrière. Mais là, on a le nom de sa mère. Voilà. Alors, les Seyssel, vous imaginez bien que quand vous entrez dans un château qui n'a jamais été le vôtre, quand vous entrez dans une mémoire familiale qui n'est pas la vôtre, mais bon, la chambre et les Seyssel sont des cousins, l'impératif, c'est de devenir des vrais la chambre. Et pour devenir des vrais la chambre, il faut virer tous ces bâtards-là. Parce qu'ils rappellent l'histoire ancienne. Donc, si on va aux archives départementales de Chambéry, on trouvera plusieurs procès. Le premier étant dirigé contre Jean de Saint-Rémy. C'est un procès pour lui interdire ou supprimer les rentes auxquelles il a le droit dans le testament de son frère légitime. C'est un autre procès, 3 mois après, toujours les Seyssel, pour lui retirer des droits à l'héritage de sa famille. Et je crois qu'il s'étale sur à peu près 8 ans, ce procès. Et à la fin, un compromis est trouvé. On lui donne Chamousset et on lui donne l'étang de Montailleur. Ce qui n'est pas grand-chose. Sans porter atteinte aux gens de Montailleur, c'est pas fou. Donc voilà, on écarte ce type-là de Saint-Rémy. On attend qu'il meure. D'ailleurs, c'est pratique, il n'a pas de fils. Donc il ne va pas faire souche. Et puis Saint-Rémy, après, j'arrive pas à savoir qui le recapte à son tour. De la même manière que Jean d'Aiguebelle, qui est juste en dessous, alors lui, carrément, les Seyssel vont donc entamer un procès pour lui interdire de s'appeler la chambre. C'est-à-dire même bâtard de la chambre. C'est-à-dire qu'il doit supprimer le mot bâtard. Et il doit supprimer surtout le nom la chambre. Il doit s'appeler Aiguebelle. D'accord ? Ça veut bien dire que beaucoup de bâtards cachent leur nom, ou en tout cas en cachent leur illégitimité en leur donnant un vrai nom de seigneurie. C'est-à-dire, l'exemple le plus célèbre que j'ai trouvé dans mon master, c'est ce type-là. Le petit bâtard que nous avons vu tout à l'heure, qui est fils de Gaspard Montmailleur, on va lui faire épouser une héritière, Béatrice de Montchabeau. Montchabeau, c'est vers Coise, Hauteville, je ne sais pas si vous voyez à l'entrée de la Maurienne. C'est la dernière représentante de sa famille, c'est pratique. Si vous l'épousez, vous raflez la mise et la seigneurie et le château qui va avec. Vous voyez que Gaspard de Montmailleur est le seigneur légitime. Son fils s'appelle Jean Bâtard de Montmailleur. À la génération suivante, ils se font appeler Jean II de Montmailleur de Montchabeau. Et à la génération suite, c'est Jean de Montmailleur, Jean de Montchabeau. Ils ont gommé leur passé. Hein, et eux aussi, d'ailleurs, auront un procès, mais un peu plus tard, pour qu'ils suppriment le nom de Montmailleur aussi. Là, on est vers 1600 plutôt. Alors, vous voyez que certains bâtards, finalement, quand on va dans la documentation, c'est difficile de les trouver, c'est difficile de les identifier. Je vous ai parlé de Jean le Vieil, de Jean de Saint-Rémy et de Jean d'Aiguebelle. Parfois, vous avez Jean le bâtard, et vous dites, c'est lequel ? C'est lequel des trois ? Si la Chamousset, c'est celui qu'on avait identifié à Chamousset, mais si on le trouve ailleurs. Je vous donne un autre exemple de quelqu'un qui a changé carrément son nom. Là, vous êtes dans une comptabilité de guerre. À l'entrée de la Maurienne, je ne sais pas si vous connaissez, donc Villars-Salais, qui est sur la route de la Rochette. Donc là, vous l'avez, vous voyez que c'est un personnage, là, c'est une comptabilité pour payer aussi un gendarme, d'accord, des gendarmes, et qui sont venus aider le comte de Savoie dans sa conquête contre les Visconti de Milan. Donc il faut le payer, vous avez donc un comte Poutous, ici. Lui, il s'appelle Lampreoni Bastardi de Montemaiori, c'est-à-dire, je m'appelle Lamproa Bâtard de Montmaiori. L'emploi, ça rappelle le gelon, ça rappelle les animaux aquatiques, là, l'emploi. Hein. C'est pas un prénom, c'est pas un prénom chrétien, c'est un surnom de guerre peut-être, là, l'emploi, hein, qui aspire le sang. Hein. Et donc là, on ne sait pas vraiment lequel c'est. Est-ce que c'est Guillaume, parce que je retrouve un Guillaume bâtard ? Est-ce que c'est Claude, parce que je retrouve un autre Claude bâtard dans d'autres documents ? On ne sait jamais lesquels c'est. Et lui, là, il a vraiment son nom de guerre, là, l'emploi qui apparaît. Vous voyez d'ailleurs qu'on le paye, et on lui paye d'ailleurs le voyage, aller et retour, depuis Villars-Saletti jusqu'à Montmailleur, pour son aller et retour. Donc voilà, travailler sur les bâtards, c'est une grande difficulté. Vous imaginez donc, pour identifier lequel est le bon, et ensuite en tirer les conclusions dont je viens de vous faire part. Concernant donc nos la chambre, à la génération suivante, une fois qu'ils ont stoppé l'appellation bâtard, il est très dur de savoir de qui il s'agit. Surtout que ces personnages-là vont avoir souvent 3 fils qu'ils vont souvent appeler les 3 gens. Donc là, bon, vous avez souvent Antoine, Antoine et Antoine. Bon, voilà, on en est là, au XIVe et XVe siècle. Bon, vous voyez très bien que qu'il y a une prise de conscience vers 1460. Dans la plupart des chroniques, on se plaint que la noblesse savoyarde s'abattardit. C'est le mot qui est dans une chronique célèbre. Valeur et noblesse en Savoie s'abattardissent. Vous voyez très bien donc que le mot est encore très péjoratif, mais dans le cas des La Chambre, posséder de nombreux bâtards leur aura donc permis de prendre possession de l'entrée de la vallée de la Maurienne, possession qu'ils vont garder jusqu'au début du XVIIe siècle, en tout cas jusqu'à là où j'ai cherché. Voilà. Je rappelle qu'au début du XVIe siècle, les La Chambre vont faire partie de l'entourage très proche des rois de France, vont partir dans les guerres d'Italie, vont tous combattre dans les guerres d'Italie. Hein, les plus célèbres sont Jean de La Chambre, encore un Jean, qui combat avec La Palice et Bayard au début du XVIe. Hein, ils se tutoient. On les voit dans les chroniques, ils combattent ensemble, côte à côte. C'est un capitaine. D'accord ? On les retrouve dans toutes les guerres d'Italie. Et encore une fois, quand on le dit à l'université, on me dit encore, La Chambre, combien d'habitants déjà ? Voilà. Je vous laisse là-dessus. Ça a été un peu dense, je suis désolé. Je vais faire de mon mieux là-dessus. Merci. Alors, je suis désolé, je manquais beaucoup de souffle parce que j'ai attrapé le Covid, j'ai fait plusieurs mois d'hospitalisation, j'ai pas totalement récupéré là-dessus. Oui.
Est-ce que vous
avez des lâchons
en combattant? Est-ce que vous
donnez ça, j'entends? Oui, mais moi j'entends
pas. Alors.
La question.
On me demande donc le lien entre La Chambre et le Royaume de France, sachant que les Français auraient détruit le château de La Chambre. Si on regarde les chroniques anciennes, c'est un article que j'ai rendu il y a 3 jours. Alors, ça m'intéresse comme question, merci. Le château de La Chambre, en fait, n'a pas été détruit par les Français. Le seigneur de La Chambre, à la fin du XVe siècle, est, disons-le comme ça, le traître par excellence. Le comte de La Chambre va mener 3 rébellions contre le duc de Savoie, pour par exemple imposer un cousin sur le trône épiscopal de Genève, ou par exemple en kidnappant le duc de Savoie lui-même, en 1482. Bref, le comte de La Chambre, c'est un sacré personnage. Il va être puni, et c'est la duchesse de Savoie elle-même qui fait raser le château de La Chambre. Et la chronique nous dit, en latin, que plusieurs de ces châteaux furent détruits. Si on va dans les chroniques de Savoie, il y a 4 chroniques qui disent que le seigneur de La Chambre, en punition, eut ses châteaux détruits. Bon, donc bien qu'arrivent les Français après, les châteaux de La Chambre, vers 1500, ne devaient pas être en bon état. Que ce soit celui de Châteauneuf, c'est sûr, il aurait été détruit dès 1491, c'est certain, j'ai plusieurs preuves. Le château de Cuine, le château de La Chambre, il y a un ordre de destruction. Est-ce que ça a été fait ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il faut rappeler que c'est plutôt la vengeance de la duchesse Blanche de Montferrat contre ce traître qui est à l'origine de la destruction des châteaux et de La Chambre. Sachant que les Français arrivent après, et, voilà, pas pour le meilleur.
Moi j'ai une question. Oui. Le bâtard jouissait des quartiers de noblesse ou pas?
Bonne question.
La question. Alors, moi je suis médiéviste. Oui. Alors, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. La question des quartiers noblesse, c'est plus tardif.
C'est plus tardif.
Voilà, c'est la première véritable typologie, hiérarchisation des différents nobles, c'est 1430, les fameux statuts de Savoie, où il y a bien marqué occuperont les premières places des noblesses ceux qui portent le nom de leur château. Par exemple, les Montmailleur ne sont pas seigneurs de Montmailleur, ils vont tout faire pour capturer le château, parce que un seigneur de Montmailleur doit être seigneur de Montmailleur. Vous voyez la différence entre le nom de famille, qui s'est cristallisé vers 1200, et ce qu'ils ont vraiment. Les quartiers noblesse, c'est plus tardif, c'est après. Voilà. Mais pas, ouais, pas
juste. Pas à cette époque.
Non,
pas
peut, ce point.
Ils sont quand même un nom, parce qu'on les désigne par Dominus.
Oui.
Je pensais à un verre de.
Alors, le mot dominus, ça renvoie au fait qu'il est un seigneur et qu'il exerce une autorité de seigneur. Après, nobilis, le fait qu'il est noble, c'est un autre problème. Ou même qu'il soit miles, chevalier. Ces trois, comment dire, Le fait qu'il soit seigneur, le fait qu'il soit chevalier, le fait qu'il soit noble, c'est des termes qui n'ont pas toujours la même définition selon les espaces. Il y a eu un colloque à Lyon il y a 2 ans où quelqu'un vous expliquait, mais finalement c'est quoi un domiquenus, c'est-à-dire un damoiseau. Est-ce que c'est le fils d'un chevalier qui n'est pas adoubé? Est-ce que c'est juste le fils d'un dominus, le seigneur, c'est-à-dire en gros on appellerait le dauphin quoi, à l'époque réduite. C'est des termes qui ne sont pas totalement définis avec précision. Et ça change si on entre ou on sort de la Savoie. Voilà. Les damoiseaux, il n'y en a plus après 1400 quasiment. Alors ça veut dire que c'est une réalité qui a disparu. Voilà. En tout cas, voilà, Dominus, c'est vraiment, là, on a affaire à un personnage qui a une autorité de justice, de redevance, ainsi de suite. Être noble, c'est autre chose. Alors, je rappelle d'ailleurs, vers 1460, la personne qui dit qu'il ne faut pas considérer que la noblesse savoyarde s'abattardit, elle dit... La plupart de ceux tenus comme nobles ne doivent pas l'être. C'est-à-dire, lui, il dit, voilà, toi, t'es noble, mais t'as payé pour l'être. Les grands marchands chambériens, par exemple, les Bonivard, ainsi de suite, tous ces personnages-là, Peltruche, ont acheté des lettres de noblesse. Hein? On gomme des dettes, souvent comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Ce qui peut résister à ça, c'est que la plupart des familles nobles de Montréal, au 14e en tout cas, sont qualifiées de dominus.
Ça peut.
On va retrouver après.
Tu as des idées précises, par exemple?
Que ce soit sur les nobles dans les villages. Hein,
ouais.
Voilà, les seigneurs de village.
Alors, ça peut aussi vous. Alors, comment dire?
Alors, ils sont peut-être pas encore nobles, officiellement.
Alors, s'ils sont dominus, ils sont nobles, c'est certain. Certainement. Parce que justement, c'est la terre qui anoblit. C'est-à-dire quelqu'un qui posséderait une terre réputée comme noble, parce que qu'est-ce qu'être noble? Est noble celui qui est réputé comme noble. Souvent, vous avez des gens qui ne veulent pas payer d'impôts. Il y en a au début du XVIe siècle en Maurienne, un procès où quelqu'un doit se justifier d'être noble. Là, vous êtes mal barré. Ça veut dire que si vous avez besoin de prouver que vous êtes noble, ben, ça veut dire que des gens ne vous considèrent pas comme noble. Ou des gens ne savent pas que vous êtes noble. Donc c'est mal barré pour vous. Tous les procès en Italie ou au XIVe ou au XVe en France, est noble celui qui est considéré comme noble. C'est ce qu'on appelle la fame en italien, la fama, c'est-à-dire votre réputation. Oui, donc ça, c'est un capital qu'il faut avoir. À partir de 1500, on va considérer que plus on a de bâtards, plus votre réputation s'étiole. Tandis qu'au 15e, on l'a vu, c'est l'inverse. C'est voilà, un grand seigneur qui ne possède pas de bâtards. Bon, c'est pas terrible. Quoi. Voilà.
Après, la notion de noblesse, elle est un peu différente des deux côtés des Alpes.
Ouais.
Moi, c'est plutôt 17e, mais... On n'a pas tout à fait la même notion, elle est un peu plus souple côté piémontais.
Alors, là, j'ai pas envie de causer des problèmes. Mon maître Guido Castelnuovo connaît très bien ces trucs-là, j'ai pas envie de dire une bêtise là-dessus.
Et,
par exemple, si vous prenez des nobles très célèbres du Piémont, les Valperg, par exemple, en latin, on dit des comtes de Valperg. Il vient de la famille des comtes de Valperg, c'est étrange comme dénomination, c'est pas lui qui est comte. Il vient des comtes de Valperg. Et on pense que les frères, peut-être, se partagent un petit bout de la titulature de comte de Valperg, comte de Mazin. En Italie, oui, c'est les nobles piémontais, c'est... Voilà, je préfère pas dire de bêtises, parce qu'on voit qu'il y a une différence, comme vous dites, mais ça serait long, quoi, à rentrer dans les détails.
Voilà. Une petite précision. Je reviens sur Val d'Arc, Randonc. Mais je reviens également sur les mines. Vous savez que j'appartiens à Saint-Jean-d'Urtière.
Oui, je connais bien.
Et donc aux mines, au musée du fer et le Grand Filon. Saint-Jean-d'Urtière, le blason, c'est des Miolans Urtières. Et Urtières sans H.
Alors,
le H de Urtière, c'est sans H. Il vient de la Loire, la Haute-Loire. Et de l'autre côté, les mines sont vraiment de fer du côté rive gauche. Et par contre, le plomb n'est que sur Argentine. Il n'y a pas peu de plomb sur Saint-Georges.
Exactement. Donc, il y a une étude là-dessus. Il y a une étude avec les lieux de mines.
Ces mines qui vont jusqu'à pratiquement Randon. Voilà. Et effectivement, les passages que l'on a pu voir après pour les fortifications diverses, le passage, il est la route de Saint-Georges, là, où il y a le château et Aigbel. Et effectivement, la route normale, c'est celle qui passe par le col du Grand Cuchon. et pour la vallée des Huiles et qui va vers Grenoble, Chambéry et au-delà de Lyon.
Mais en fait, ce qui est important, ce qui est important pour comprendre le rôle de la Savoie, puisque tous les historiens modernistes vous expliquent que c'est une puissance moyenne. Puissance moyenne, c'est déjà pas mal. L'idée, c'est toujours les voies de communication. Les vicomtes de Maurienne, quand ils se rebellent, à la fin du XVe siècle, il y a tout un procès en latin qui explique ce qu'ils ont fait. Ils prennent le châtelain avec Belle, ils le balancent dans l'arc. Ils attaquent l'église d'Aigbelle et son prieur est certainement noyé dans l'arc. Vous avez là quelqu'un qui peut ceinturer la Maurienne à Aigbelle et Pierre, au Cucheron et ainsi de suite. Et il y a bien écrit, au grand préjudice du duché, la plupart des marchands internationaux ne prennent plus la voie de la Maurienne. C'est-à-dire qu'il a une puissance coercitive immense, parce que les vallées sont très étroites. Alors, il est très difficile d'estimer sa richesse parce qu'on n'a pas une comptabilité de ce que lui rapportent vraiment ses mines. On sait que c'est très important. Il y a une estimation de ses biens en 1550 qui est fabuleuse. On décrit même ses bijoux, qui sont certainement des cadeaux des rois de France. Bon. La dernière chose, c'est que, justement, ces voies secondaires. Puisque, voilà, on a la preuve. Vous savez, quand on fait une carte, on fait un grand trait. Mais bon, c'est ce qui représente une route. Mais on ne peut pas se faire vraiment une idée de ce qui se passe. Il y a des dizaines de vies, de petits sentiers, comme on dit, des vies. Quoi. Et toutes ces petites voies secondaires dans la vallée des Huiles, qui a été d'ailleurs, puisqu'on parle des Urtières, oui, ça vient de Urterarum, sans H. Les Urtières, au pluriel, toujours. Vous avez la traduction, la francisation d'un très grand nombre de lieux dans ces régions qui vont faire crever l'origine toponymique. Je m'explique. La vallée des Huiles, peut-être beaucoup le savent ici, je vais pas faire un jour si vous le savez déjà, mais l'idée c'est, la vallée des Huiles, ça vient de quoi? Si je regarde un acte de 1700, il n'y a pas les Huiles. C'est l'œil, non pas en français, non pas ce qu'on appelle en franco-provençal, hein, ça n'existe pas, on cherchera le mot longtemps, franco-provençal. C'est en savoyard, c'est une langue. Et l'œil, H-E-U-I-2-L, c'est la déformation de aiguille. C'est-à-dire que vous allez retrouver le pic de l'huile, c'est-à-dire l'aiguille de l'aiguille. Vous voyez? Vous allez avoir le col de cochette. Qu'est-ce qu'une cochette? C'est un col. Moi, j'habite à côté du col du cou. En Haut-Savoyard, qu'est-ce qu'un cou? C'est un col. Bref, vous avez donc finalement la francisation d'énormément de lieux chez nous, que ce soit les Urtières. Alors, ça serait très long de parler de la succession des Urtières, parce que c'est un procès qui dure tout le XVe siècle. Les derniers, en fait, on n'arrive pas à voir qui est des Miolans ou des Urtières, parce que les Urtières sont des Miolans, certainement, quand ils vont disparaître. Il y a 1 million de procès, mais on en trouve... C'était des centaines de pages, j'ai rien lu, parce que ça m'intéresse beaucoup moins, mais l'idée, c'est qu'à la fin, la Chambre arrive à évincer les Miolans. Deux chroniques disent qu'il y a une guerre entre Miolans et la Chambre. Hein, il est marqué « Qui non erat boni amici », ils n'étaient pas bons amis. Et plus loin, il y a écrit « Qui furent en guerre longtemps ». Vous avez donc des seigneurs de la Chambre qui partent en guerre contre des seigneurs de Miolan vers 1400 et quelques. Vous avez plusieurs interventions du comte de Savoie qui leur interdit d'attaquer leurs voisins. Il n'y a qu'un acte qui est connu, j'en ai retrouvé une dizaine depuis. Donc si vous voulez, ces lieux de passage, bah, le pic de l'huile, pour une lecture de l'espace, la Maurienne, c'est très important. Après, moi, je n'ai pas inventé la roue, hein. J'ai juste lu le chanoine Félix Bernard, des années qui a été gazelle hippérique pendant la Grande Guerre, qui écrit ça en 1942. Vous voyez, je ne suis pas un grand savant, j'ouvre les bons livres. Quoi.
Une autre question sur les voies de passage, qui est quand même celle qui est en face de la Chambre. Le Glandon, la vallée, est-ce que les la Chambre en ont profité ou pas de ces voies de passage par le Glandon?
Bien, vous savez, comment dire, le proverbe, c'est toujours dire les ducs de Savoie sont les gardiens des Alpes, sont les gardiens... Bon, quand vous regardez et vous essayez de trouver de la vraie documentation pour le Moyen-Âge, il n'y a pas grand-chose qui apparaît. Certainement que ça existait. Hein. Ça, par exemple, vous savez le système d'affermage, vous avez un péage sur l'arc, soit vous payez un agent sur place, qui va faire le garde-péage et qui va vous faire payer avec un notaire qui écrit qu'est-ce qui passe, combien on paye, ou alors vous donnez ça à un privé qui lui va tenir sa documentation qui ne sera quasiment jamais conservée, on ne la retrouvera jamais. puisqu'ils n'ont pas de dépôt d'archives. Hein. Vous savez, on pense que les gens au Moyen-Âge gardent tout. Vous savez, vers 1500, il n'y a déjà plus de place dans les locaux. Souvent, en 1500, on brûle la moitié des archives. On récupère une partie en lanière de reliure. Mais voilà, vers 1600, 1700, on perd la plupart des documents médiévaux. Alors, pour les Lachambre, ben, honnêtement, ça fait 10 ans que je cherche. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais pour le moment, j'ai un fragment par-ci d'un relevé de métralie dans les huiles. J'ai un compte de ce qui reste à payer, mais vous voyez, dans des petits jeux, mais je cherche le glandon, je cherche la madeleine, je cherche tous ces trucs-là. Mais c'est, ça a existé, c'est obligatoire. Ça a existé. Après, vous savez, les textes antiques, on en a peut-être 4% qui est resté. Pour le Moyen-Âge, c'est bien plus, mais la plupart a disparu. Alors parfois, vous avez des coups de bol, on a parlé de ces actes qui sont en vente sur Internet. Parfois, dans un centre d'archives, vous trouvez quelqu'un qui a travaillé il y a plusieurs années sur tel fonds d'archives dans tel patelin du Piémont. Les gens d'il y a 20 ans sont décédés, il faut essayer de retrouver de la confiance. Hein. Vous savez, les gens ils ouvrent pas comme ça leurs archives médiévales. Hein. Vous savez qu'il y a du vol même aux archives départementales. Donc, voilà. Il y a des choses encore à trouver tout le temps. Tout le temps, ou à relire, et ainsi de suite. Par contre, pour le glandon, voilà, je cherche.
Il y a une question, Christian.
Oui.
Le château des Lachambre est à Notre-Dame du Cruel.
Oui.
Il y a une gravure de 1861 où le château est pratiquement dans son état. Il manque les toits, etc. Et c'est une carrière d'ardoise dessous qui a fait exploser des mines et qui a fait tomber les tours.
Alors,
on voit très bien la carrière qui est juste le fort de Notre-Dame du Cruel.
Alors, c'est... Oui. Oh oui, j'ai lu là-dessus. Alors, le souci, moi, je ne suis pas de Lachambre, enfin, voilà, ça aurait été d'Aigbel, je vois les rues, Mais là, comment vous dire, la plupart du temps, on a dit « ce château, c'est le château des Lachambre, ce château, c'est celui des Montmailleur, ce château, c'est celui de Miolan, là, c'est pas dur. » En fait, la plupart du temps, vous arrivez dans des endroits, pensez à Chamou, par exemple. Vous avez une concentration de maisons fortes à Chamou, il y a 3-4 bâtiments qui sont susceptibles d'être le château. Regardez, par exemple, vous allez à Arvillard. Bon, sur un document, le seigneur, il dit « mon château ». Ben voilà, les châteaux changent de nom, hein, vous savez. Hein. Et donc, des fois, il est très dur de dire « c'est ce château ». J'avais fait un mémoire sur les Montmailleur. J'ai l'association donc, des tours Montmailleur, des gens du Larcelet, que je connais bien, qui m'ont dit « est-ce que c'est ce château ?» C'est compliqué. Ces pierres-là datent du 15e, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il est plus gros que les autres, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais souvent, en fait, on se plante. Et de l'expérience, enfin, de petite expérience, parfois on attribue un château, c'est pas celui-là. Vous savez, les maisons fortes changent de nom, elles changent d'attribution, elles sont détruites, elles sont reconstruites, elles sont refaites, retapées vers 1900, et après, on est là, l'historien, souvent, vous avez une association qui vient vous dire « il faut sauver le château, c'est celui-là ». Alors, il faut sauver tous les châteaux, c'est sûr. Mais des fois, moi, je suis là, je dis, attendez, je vais pas dire une connerie, c'est peut-être pas celui-là. Vous voyez ? Et donc, quand on parle de 600 000 euros, ah oui, j'ai pas envie que la parole soit décrédibilisée. Vous savez, être historien, c'est... je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est pas si facile. Vous avez quelqu'un des archives départementales ou de l'université de Grenoble qui a expertisé la bague du dauphin, qui a dit que c'était un authentique. Alors que c'est une forgerie monumentale, quoi. Hein. Voilà, quelqu'un savait qu'on avait envie d'acheter un anneau, il a créé un anneau, on l'a vendu. Bon, vous imaginez la personne qui a authentifié ça. Voilà, ça met quelques années à s'oublier, quoi. Et il faut faire son mea culpa très rapidement. Voilà.
Je connaissais une personne qui avait une maison à Lachambre, qui était les anciens greniers des marquis de Lachambre. Ce n'était pas les comtes, c'était les marquis.
Alors,
et elle me disait toujours, des cuines et des villards. Que leur titre était Marquis de Lachambre des Cuines et des Villards.
Alors, comment vous dire ? C'est la même chose. Comment vous dire ? Les Comtes de la Chambre, leur vrai nom, c'est Comtes de la Chambre et des Huiles, par exemple. Il faut savoir que pour les Ducs de Savoie, il faut arbitrer les conflits entre vos nobles. Il y en a un qui réclame, il y en a un autre qui réclame. Comment calmer tout le monde ? On leur donne des titres que les autres n'ont pas. On parlait de Dominus tout à l'heure. Souvent, un seigneur, pour se différencier des autres, dans les documents, il va se rappeler Dominus. Moi, je suis un seigneur. En fait, il lève des rentes en avoine sur 4 paysans. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il n'a même pas une maison forte, il loge chez ses frères. Mais c'est un dominus, vous voyez. Là, la chambre, comme les Montmailleur, comme d'autres familles, vont obtenir le titre de comte. Donc les Seyssel vont devenir comte de la chambre. Jacques de Montmailleur va devenir comte de Montmailleur. C'est comme ça que le duc arbitre les conflits entre ses nobles. Celui-là, il la ramène un peu trop. Celui-là, il a envie d'être dans les secrets de la veille, les secrets du jour et pas les secrets de la veille. Celui-là, il veut une place. Allez, tu deviens comte. Les Chalands deviennent comtes, les Labaume aussi. Vers 1500, quasiment tout le monde est comte. Donc il faut trouver un autre truc. Et c'est là qu'apparaissent les marquis. C'est-à-dire que, bon, comte de la chambre, au 1500, c'est pas grand-chose. Être comte de Savoie, en 1200, c'est énorme. Mais en 1500, comte, il y a tellement de lignages qui ont le titre de comte qu'il va falloir trouver un autre truc. Et donc vous allez voir que beaucoup de seigneurs, grands seigneurs, veulent se différencier en devenant marquis. Et les Lachambre deviennent marquis de la chambre, vicomte de Maurienne, comte de la chambre, des Villars, enfin avec 1600, les titres sont à rallonge. Voilà. On copie le duc de Savoie qui lui-même a un titre sur trois lignes, à peu près. Voilà. Mais c'est la même chose, c'est la même famille.
S'il n'y a plus de questions, ou sur un autre sujet, enfin finalement, sur la Savoie médiévale en général, je ne sais pas.
On va remercier Pierre d'être venu, parce qu'il est venu de loin.
Merci, monsieur.
Donc, rendez-vous au mois de mars, 14h pour l'Assemblée générale, 15h pour la conférence.